journal est présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, la condamnation à mort du lutteur iranien Navid Afkari à la suite d'aveux extorqués sous la torture, selon son avocat. Précision dans un instant d'Adrien Paluet. L'empoisonnement d'Alexei Navalny, l'OTAN appelle Moscou à coopérer avec l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques et Donald Trump sort de sa réserve. L'intersyndicale de l'usine Smart d'Ampare en Moselle qui appelle à la grève tous les samedis de septembre en pleine vente du site à Ineos. Le travail sur les drames de Bergame au début de la crise sanitaire est compensé par un visa d'or ce matin à Perpignan au festival Visa pour l'image. Enfin, la bulle économique de ce samedi signée Marie Viennot consacrée à la dimension culturelle du plan de relance. Condamné à mort en vertu de la loi du talion, une peine dite de rétribution selon la loi iranienne, le champion de lutte Navid Afkari n'a plus qu'un recours que son avocat n'a pas manqué de déposer devant la Cour suprême pour espérer la tenue d'un nouveau procès, faute de quoi il sera exécuté, accusé qu'il est d'homicide volontaire. Homicide volontaire qu'il aurait commis le 2 août 2018 à Shiraz, dans le sud de l'Iran. Bonjour Adrien Paluet.
Bonjour.
Adrien, que sait-on exactement des circonstances qui lui ont valu d'être arrêté puis condamné ?
Navid Afkari a 27 ans. Le 2 août 2018, ce champion de lutte iranien participe aux manifestations qui embrasent le sud du pays, notamment dans la ville de Shiraz. Avec des milliers d'autres personnes, il crie sa colère contre la crise économique et sociale, contre les pénuries d'eau et plus généralement contre le régime iranien. Les esprits s'échauffent et une vidéo le montre aux prises avec un agent en charge de la gestion de l'eau de la ville. Cet homme sera déclaré mort une heure plus tard, poignardé. Navid est arrêté, emprisonné. Pour les autorités, cette vidéo est la preuve qu'il est l'auteur des coups de couteau. Malgré un recours en appel devant la Cour suprême du pays, la sentence est confirmée cette semaine. Le jeune lutteur est condamné à 74 coups de fouet et à la peine de mort. Une vague de soutien envahit alors les réseaux sociaux, émue par l'histoire du lutteur et par les messages vidéo vibrants postés par sa maman. Des sportifs du monde entier et des militants demandent sa libération. Une pétition est lancée et a déjà récolté plus de 15 000 signatures. Le président américain Donald Trump a demandé jeudi au régime iranien d'épargner la vie du lutteur. Car la sentence, terrible, pose beaucoup de questions. L'avocat de Navid argumente: la vidéo a été tournée une heure avant la mort de l'agent. Il n'y a aucune preuve contre le jeune homme. Navid dénonce, lui, on l'a torturé pour le forcer à avouer. Alors pour les opposants et les ONG, les droits humains sont ici bafoués. Et dans un rapport publié ce mercredi, Amnesty International met en lumière la pratique généralisée de la torture par la République islamique d'Iran.
Merci à vous, Adrien Paluet. Quelques 200 personnes ont manifesté hier soir à Portland, dans l'Oregon, et une vingtaine d'entre elles ont été interpellées sans ménagement, comme presque toutes les nuits, depuis des manifestations d'indignation suscitées fin mai par la mort de George Floyd sous le genou d'un policier blanc aux États-Unis. Rien ne semble atteindre le Kremlin dans l'affaire Navalny, pas même, je cite, les preuves sans équivoque dont Berlin dit disposer, éléments, prélèvements selon lesquels l'opposant russe Vladimir Poutine, hospitalisé en Allemagne, a bien été empoisonné par un agent neurotoxique de type Novichok, mis au point par les soviétiques dans les années 70. Moscou dit traiter les déclarations de nos collègues occidentaux avec une bonne dose de scepticisme, et pourtant, Claude Guibal, l'OTAN a haussé le ton et Donald Trump est sorti de sa réserve.
Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. C'est tragique, c'est terrible, ça n'aurait pas dû se produire, mais nous n'avons pas de preuves jusqu'ici. Donald Trump a enfin rompu le silence qu'il observait depuis deux semaines, depuis l'empoisonnement d'Alexei Navalny, laissant jusqu'alors à son administration et au secrétaire d'État Mike Pompeo le soin de dire la préoccupation de la Maison-Blanche devant le résultat des investigations allemandes sur l'empoisonnement de l'opposant russe au Novichok, ce neurotoxique développé par l'Union soviétique puis utilisé contre le dissident russe Sergei Skripal, c'était en 2018. À l'époque, Donald Trump avait déjà évité de pointer du doigt trop directement Moscou, en préférant jouer sur le bénéfice du doute. Là encore, il souffle le chaud et le froid, en affirmant n'avoir pour autant aucune raison de douter de Berlin, qui affirme avoir des preuves sans équivoque. La France et l'Allemagne, elles, ont de nouveau réclamé des explications à la Russie, exigeant que les responsables soient identifiés et traduits en justice.
Claude Guibal. En raison de difficultés financières liées à l'épidémie de Covid-19, un préambule dont abuse la direction de Daimler, selon l'intersyndicale de l'usine Smart de Hambach en Moselle. Intersyndicale qui appelle les salariés à la grève tous les samedis de ce mois de septembre jusqu'à obtenir des garanties, je cite, inaltérables en termes d'emploi et de rémunération. Fin de citation. Des garanties en pleine vente du site à Ineos. Les précisions de Raphaël Ebenstein.
Obtenir des garanties pour les 1600 salariés de Smart et des sous-traitants qui travaillent sur le site d'Hambach au moins jusqu'à fin 2027. C'est la revendication unanime des syndicats dans la perspective d'une vente de l'usine à Ineos. Le groupe britannique, seul candidat au rachat, veut commencer à y produire à partir de l'an prochain un 4x4 baptisé Grenadier au faux air de Land Rover. L'offre apparaît sérieuse, reconnaît-on au ministère de l'économie, où on suit le dossier de très près, mais un doute plane sur les besoins précis d'Ineos en termes de main-d'œuvre et sur la possible suppression d'environ 300 postes après 2024, quand auront pris fin les engagements de l'actuel propriétaire Daimler à maintenir l'ensemble des emplois, d'où une pression sur Daimler, exercée d'ailleurs aussi par le gouvernement, afin qu'il transfère par exemple à Hambach la production de pièces pour des modèles Mercedes après 2024.
Dans le Jura, dans Paris, ce sont 151 emplois qui sont menacés. Des emplois et plus encore. Le groupe américain Kohler a décidé hier de fermer l'usine historique de la marque Jacob Delafont, un creuset, une forge en voie de disparition qui plonge tout un bassin d'emplois dans la sidération. Cédric Hermel.
Ils n'en reviennent toujours pas.
C'est dur. C'est dur. Pour moi, c'est dur.
David a plus de 20 ans d'expérience au sein de Jacob Delafont et toute une histoire, puisque son père et son grand-père y ont travaillé. Même chose pour Eric, 36 ans à l'usine de Dans Paris. Une histoire de tradition qui prend fin après plusieurs années d'agonie, estime Rodolphe, un autre salarié.
Ça fait 25 ans qu'on se bat tous en équipe pour essayer de faire durer ça le plus longtemps possible. Quand je suis arrivé il y a 25 ans, qu'on parlait avec les anciens, ils nous disaient c'est la dernière année, ça va fermer. Là, c'est le cas, donc c'est, oui, c'est un petit peu difficile.
Difficile surtout pour certains comme Frédéric, dont le métier est en train de disparaître.
Moi, je suis modeleur-matriceur. On n'est plus que trois en France à être modeleur-matriceur. Il n'y en aura plus en France.
D'autres métiers sont en danger avec la fermeture de l'usine. Les couleurs, par exemple. Ceux qui coulent la porcelaine ou le grès dans un moule pour donner la forme des WC. Un savoir-faire qui risque de se perdre pour Olivier Dru, responsable CFE-CGC de l'usine, tout comme l'usine en elle-même, berceau de la marque Jacob Delafont.
L'entreprise aujourd'hui vend le site, mais repart avec la marque Jacob Delafont. Et en fait, ils vendent une coquille vide. Ils vendent des murs qui ont 130 ans, voire plus. Historiquement, c'est une catastrophe.
Une histoire qui va se terminer pour l'usine de Dans Paris après 130 ans d'existence.
Et le maire de Dans Paris espère le soutien de l'ensemble des décideurs politiques du secteur. Lundi, réunion d'un comité social et économique. Ces drames économiques feront-ils l'objet de débats lors des universités d'été du week-end, quand celle de la droite républicaine au Port Marly dans les Yvelines semble être happée par l'ex-future candidature de François Baroin à la prochaine présidentielle? Les gauches sont invitées à se rapprocher et à partager les bancs du Festival des idées à la Charité sur Loire, initiée par Christian Paul, chef des frondeurs sous le quinquennat de François Hollande. Laurence Perron.
Un cloître de vieilles pierres au bord du dernier fleuve sauvage de la France, la Loire. S'il fallait jouer la métaphore, la gauche, son histoire glorieuse, se retrouve dans une grande messe œcuménique pour tenter de faire rentrer dans son lit un peuple de gauche qui lui échappe.
Tous les mouvements populaires n'ont pratiquement pas eu de débouché politique. Nuit debout ou les gilets jaunes en France.
Face à ces citoyens inquiets, des représentants de toute la gauche, des écolos à Génération.S, aux insoumis, Adrien Quatennens.
Je pense que nous avons beaucoup de réponses. On en aura sans doute avec des nuances. Et je crois que ce que nous avons à faire, la tâche que nous avons à accomplir dans cette période, c'est de bâtir une majorité d'adhésion. Voilà.
Merci beaucoup.
On lui rappelle que les nuances sont tellement fortes que sa lettre en forme d'appel à travailler en commun, il l'a envoyé à tous les partis de gauche, sauf au PS.
J'ai été très, très franc avec Olivier Faure à l'instant. Il est clair que, compte tenu du bilan précédent du quinquennat Hollande, il y a un rejet encore présent qui s'exprime.
Olivier Faure, le patron du PS, irréductible optimiste.
Moi, j'ai cru comprendre une chose, c'est qu'il y en avait un qui avait réussi à mettre tout le monde d'accord il y a quelques heures, il s'appelle Lionel Jospin. C'est un rappel utile que nous avons toutes et tous gouverné ensemble un jour dans ce pays.
La gauche, en vrai, c'est qu'elle n'a pas trop le choix. Sans réconciliation, les vieilles pierres seront en 2022 un véritable champ de ruines.
La pandémie est un travail de mémoire sur ce moment de notre histoire. Ce sont les termes du lauréat du Visador News, décerné ce matin à Perpignan, au photographe italien Fabio Bucciarelli, pour les clichés qu'il a pris à Bergame, ville qui a tant souffert du coronavirus, cliché publié par le New York Times. Isabelle Souquet a sollicité Jean-François Leroy, directeur et fondateur du festival Visa pour l'image, une édition 2020 incontestablement marquée par la pandémie.
C'est vrai que depuis la Deuxième Guerre mondiale, on n'a jamais vu un sujet
qui touche les 5 continents, qui touche tous les pays du monde, qui touche des milliards d'individus. Donc on a eu une production sur le Covid tout à fait phénoménale, parce que les photographes qui ne pouvaient plus voyager se sont attachés à montrer différents aspects de cette pandémie. Fabio a fait un travail formidable sur Bergame, qui a été un des épicentres de l'épidémie en Italie du Nord. Il a un regard très singulier. Il y a des ambiances, il y a des atmosphères, il y a des lumières tout à fait exceptionnelles. Ce qui fait la richesse du sujet de Fabio, c'est justement cet ensemble, cette entièreté.
Qu'est-ce qu'il en dit, lui, de ses photos? Qu'est-ce qu'il en dit de son sujet?
Lui, d'abord, il est très content d'avoir ce Visador. Je l'ai eu hier en visioconférence, parce que malheureusement, il n'a pas pu venir. Il est très touché et moi, je trouve que tous les politiques devraient voir son sujet pour comprendre l'intérêt des gestes barrières, de la distanciation sociale, et qu'ils prennent conscience de ce qu'est réellement ce virus et cette saloperie de pandémie.
Une des choses qui fait peut-être la singularité de Fabio Bucciarelli, c'est qu'il a travaillé complètement en immersion, c'est-à-dire il était au sein d'une équipe revêtue de la même combinaison de la Croix-Rouge.
Complètement, et d'ailleurs il a dédié son prix hier à toutes les équipes des soignants et les équipes de la Croix-Rouge qui l'ont accepté, qui lui ont permis de faire ce travail.
Voilà, Jean-François Leroy, directeur fondateur du festival Visa pour l'image. Le festival a aussi notamment récompensé le travail de l'Américain Brian Denton sur les catastrophes provoquées par le réchauffement climatique en Inde.
La bulle économique, Marie Viennot.
Et aujourd'hui, Marie, vous nous entretenez de la dimension culturelle du plan de relance.
Le monde du spectacle, le monde de la culture, traverse un véritable désastre. C'est un secteur économique qui représente 7 fois l'industrie automobile, on ne l'imagine pas. C'est un secteur sinistré.
7 fois l'industrie automobile, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, s'est trouvé les comparaisons qui marquent pour défendre son Marocain. Ce chiffre, elle l'a extrait d'un rapport rédigé en 2013 par l'Inspection générale des finances et l'Inspection des affaires culturelles, rapport qui cherchait à établir la contribution économique de la culture dans le PIB. Revenus des spectacles, des musées, ventes de livres, places de cinéma, mais aussi chantiers de réhabilitation des monuments historiques, mis bout à bout, ce PIB culturel, comme certains l'ont appelé, s'élevait à 3% du PIB en 2011 et c'était sans compter tous les effets induits comme la restauration, les déplacements, le logement et l'effet sur le tourisme. Les auteurs du rapport soulignaient eux-mêmes que ce poids était 4 fois plus élevé que l'industrie chimique et 7 fois plus que l'industrie automobile. Depuis, les chiffres ont évolué. La dernière étude du ministère de la Culture considère que ce secteur pèse 2,3% du PIB et l'écart est moins flagrant avec l'automobile qui, selon d'autres calculs, rapporte 2 fois moins que la culture à l'économie et pas 7 fois moins. La culture, c'est bien sûr bien plus que du PIB. Son apport est pour l'essentiel inestimable, mais si on s'en tient à son seul apport économique et mesurable, on constate donc que l'effort financier que la nation est prête à lui consacrer va être inférieur à celui qui sera mobilisé pour le secteur automobile, qui a eu son propre plan spécifique à 8 milliards d'euros avant l'été et va en plus bénéficier à plein de la baisse des impôts de production décidée dans le plan de relance. La culture reste bien le parent pauvre des plans d'urgence au secteur sinistré, même si le Premier ministre Jean Castex s'en défend auprès des journalistes.
On est en France, monsieur, donc le compte n'y est jamais. Mais là, nous avons fait, je le revendique, des efforts substantiels.
Des efforts que les professionnels du secteur reconnaissent. Pendant le confinement, ils n'auraient pas survécu sans le chômage partiel, les prêts garantis par l'État, les exonérations de cotisations, autant d'aides qui concernent tous les secteurs, mais qui, pour la culture, ont été accentuées et ont coûté 4 milliards d'euros, selon le ministère. La prolongation jusqu'en août 2021 des droits au chômage pour les intermittents et intermittentes, c'est 1 milliard d'euros. 100 millions iront par ailleurs aux salles de spectacle dont les entrées sont limitées, mesures de distanciation oblige. Et à cela s'ajoutent les 2 milliards du plan de relance. Ou plutôt s'ajouteront peut-être, car même si ces 2 milliards ont déjà été fléchés entre les monuments historiques, le spectacle vivant, la presse, le livre, le cinéma et même l'audiovisuel public, ils ne sont pas acquis. Jean Castex.
Si la ministre de la Culture, qui est parfaitement servie dans ce plan, ne l'exécute pas complètement, on lui dira, eh bien, on va réallouer les crédits à la ministre de la Transition écologique.
C'est l'une des originalités du plan de relance. Les ministères, et pas seulement celui de la culture, n'ont pas les mains sur l'argent. c'est Bercy qui débloque les fonds directement aux bénéficiaires. Quel sera le droit de regard du ministre de l'Économie et de la Relance, Bruno Le Maire, sur les attributions du secteur culturel? Fera-t-il sien les critères définis par la rue de Valois? En aura-t-il d'autres? Pour le moment, tout cela est encore très flou. À l'image du flou sanitaire qui empêche le spectacle vivant, le plus affecté par la crise, de se projeter dans l'avenir. Pas de spectateurs debout, un siège sur deux en zone rouge, des zones vertes qui peuvent changer de couleur du jour au lendemain. Avec ces contraintes, planifier des tournées relève du casse-tête, c'est risqué financièrement, témoignent représentants de la scène publique et privée. Pour eux, le plus dur reste à venir et il n'est pas encore question de relance, mais bien de survie.
Merci à vous Marie Viennot. La météo de l'après-midi en quelques mots, temps chaud et ensoleillé au sud, variable au nord, température maximale comprise entre 19 et 33 degrés. Ce journal a été préparé avec M. Le Chili à la technique Jean-Frédérix.